La bande originale sur France Inter. Bonjour les amis.
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est fou, hein, je sais tout.
Aucune erreur commise en une phrase, c'est quand même dingue ça.
Journaliste vedette.
Comment elle fait? Ah, c'est elle.
C'est elle.
C'est The Gaillet.
Une fois, je l'ai croisée, elle m'a dit bonjour.
Mais non.
Elle m'a dit bonjour.
Mais t'es sûr que c'était derrière toi, il n'y avait pas quelqu'un?
Elle m'a pas regardé, elle s'est pas arrêtée.
Mais c'est ça, ouais. Mais ouais, mais elle est comme ça.
Elle a dit bonjour, monsieur Demand.
Elle parle souvent d'elle à la troisième personne.
Oui, c'est vrai. Tanguy a raison. Est-ce qu'elle a rajouté monsieur Demorand après t'avoir dit bonjour?
Non, non, elle essaie de faire la différence quand même.
C'est bien.
Elle m'a appelé Laurence. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
Sur tes cheveux.
C'est ça.
Elle reviendra à midi. Qui, elle? La Gaillet. À tout à l'heure. Ce n'est pas Fanny Ruet, c'est Florence Manœuvre. Ce n'est pas Alexis Le Rossignol, c'est Alex Kobinec. C'est bien Tanguy Bachelot, c'est bien Daniel Morin. Et notre invité, François-Xavier de Maison.
Ah oui,
génial.
Une coiffure très réussie.
Et à la présentation, Rachida Abom.
Je ne sais pas si tu as voulu créer quelque chose, mais c'est réussi en tout cas.
Ouais.
Nous allons,
c'est toi qui parles.
Et c'est un bonheur, accueillir François-Xavier de Maison. J'ai dit qu'on allait parler vin. Oui, mais évidemment, son spectacle.
Avec modération.
Oh, ouais, exactement. Divin, avec ce nouveau spectacle qu'il va lancer la semaine prochaine et jusqu'au 2 avril au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Il se raconte à travers les vins.
Ouais, c'est vrai qu'il se raconte.
Mais en même temps, franchement, le gars, il est capable de tout jouer, de chanter.
De tout boire.
Ouais. Moi, je trouve que
c'est toujours agréable de le recevoir.
Exactement.
En tout
cas. Je l'adore, ce passionné et passionnant. On va donc avec lui parler de son nouveau spectacle. Mais dites-moi d'abord à propos de Blind Test.
Le petit vin blanc
qu'on boit sous les tonnelles.
C'est de la musique, Leïla, c'est de la musique.
Qui chante ça? Parce que c'est là-dessus qu'on s'échappe.
Tanguy,
You Be 40.
Oui.
C'est pas parce que tu le dis plus tard que
ça. J'entends mal.
Et je sais pas, c'est une reprise. Je croyais que c'était eux qui l'avaient créé, moi, de toute façon.
Non, pas du tout. C'est Jean Gabin.
C'est un copain. Qui chante ça?
Brassens.
Exactement.
Bien joué.
La tête est au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche.
Qui chante ça?
Non, j'ai dit Leïla d'abord.
Tes frères,
Tu vois ce qui serait classe, c'est que l'invité arrive sur cette musique.
Ouais.
Ouais. C'est vrai que c'est ça.
Qui chante ça?
Moi j'arrête de jouer quand j'ai jamais commencé.
Simon Garfunkel.
Le vin me saoule. Donne-moi.
Daniel.
Leïla.
Daniel.
Bérac.
Oui, exactement.
C'est ça.
Nicolas Bérac.
Nicolas
Berger. Attention,
c'est sur Sardou alors.
Attention. C'est le super banco.
Morgane,
oui.
C'est Adèle.
Oui.
Vous avez fait gagner, mais franchement.
Et le titre c'est I Drink Wine. Trying to be
somebody else. Victoire. Et ton looper en choriste, hein.
Non, non, surtout pas. Victoire de Morgane Gallimard. Merci Morgane. D'accueillir François-Xavier de Métro.
Bonjour. La bande originale avec Nagui.
Bienvenue François-Xavier de Maison, on est ravis de parler, on a eu la chance de voir d'ailleurs ce spectacle que vous jouerez la semaine prochaine, ça sera du 11, ça commence même vendredi prochain, c'est ça?
Oui, exactement, le 11 février.
Le 11 février, jusqu'au 2 avril au Théâtre de l'Œuvre avec Divin, et entre parenthèses le X du chiffre 10 et le S de 20, donc c'est à la fois Divin et à la fois Divin proposé, et on va vous attaquer évidemment pour avoir volé l'idée de la bande originale. On va l'attaquer pour avoir volé l'idée de la bande originale. C'est votre cave originale en fait, cette.
Exactement. Je me raconte à travers 10 bouteilles de vin qui ont marqué ma vie. C'est dans le retour vers le futur. Vous avez la DeLorean, la voiture qui permet de voyager. Mais je crois qu'on a tous un moyen de voyager dans le temps. Vous, c'est les chansons. Il y en a, ça va être un parfum. Voilà. Et moi, c'est le vin.
C'est votre Madeleine, c'est ça.
Voilà, c'est ma Madeleine de Proust, pour avec modération, puisque la Madeleine trempée dans le pinard, on se souvient plus, on oublie très vite.
C'est qu'ils sont pas toujours très bon ces vins.
Non, c'est des
le
petits
premier,
vins,
exemple,
c'est des, il y a des grands
bon.
Vins, il y a des grands, ouais. Il y a des grandes bouteilles, mais il y a aussi des bouteilles beaucoup plus
le premier
modestes.
En l'occurrence, comme dit Leïla.
Le 5%,
ben
il
oui,
a pas
c'est
vie.
Un souvenir d'enfance, c'est mon grand-père qui a mis une bouteille, pour ma naissance, qu'il a mis en bouteille un vin, et je l'ai regoûté récemment, c'était absolument dégueulasse, mais le souvenir est là. Grand-père n'est plus.
Vous savez qu'au cours d'une dispute avec mon ex, pour le faire chier, j'ai vidé son château Yquem devant sa gueule dans la baignoire.
Mais ah, vous non. Étiez très énervé alors.
Ou inconsciente.
Ouais, t'aurais pu le voir.
Ouais, non, c'est du gâchis.
Vous voilà, avez frappé là où ça fait mal.
Donc ce vin, en l'occurrence, qui vous accompagne, qui est une sorte de fil rouge, sans faire de mauvais jeu de mots. D'ailleurs, globalement, c'est du vin rouge.
Il y a des blancs, il y a des rouges, mais c'est globalement du vin rouge. C'est vraiment un prétexte, hein. C'est vraiment pas une conférence sur le vin, et c'est un prétexte pour voyager dans le temps et dans les émotions. Même si
au théâtre, j'adore ça. Au théâtre de l'Œuvre, ce qui est formidable dans ce théâtre, c'est qu'il y a un bar.
Oui.
Et que les deux en même temps.
Et que ce bar
a de bonnes charcuteries, de bons vins,
un très bon goût. Ouais.
Oui, bah oui, puisque je dirige ce théâtre depuis 6 ans, donc j'ai pu être très vigilant sur le choix des produits. Et sachez que mon engagement est total sur ces questions-là.
C'est la conscience professionnelle.
Exactement.
Exactement. C'est avec une énergie folle, évidemment, qu'on vous retrouve sur scène. Ça fait partie, j'allais dire, des fondamentaux de François-Xavier de Maison. C'est-à-dire sur scène, on vous imagine et on vous voit et on vous aime quand vous bougez, quand vous chantez, quand vous transpirez, quand vous donnez totalement.
Ah oui, quand je bouge, ce petit corps de sanglier intrépide.
Quand vous êtes nu sous la djellaba.
Oui. Voilà.
Justement, ça, par exemple, cette autodérision sur votre physique, sur être gardien, sur l'italien qui se moque de vous, je ressemble à Platini, et ainsi de suite. Tout ça, vous envoyez vous-même des vannes,
ouais,
d'une violence. Bah
oui, je trouve que c'est quand on
se moque de soi.
Oui, quand on fait de l'humour, faut en avoir un petit échantillon sur soi. Je pense qu'effectivement, il faut avoir de l'autodérision.
Quand on deal aussi.
Oui.
On a entendu. Hein.
Fais gaffe, ton micro est ouvert. Hein. Fais très attention.
Oui, effectivement, il y a de l'autodérision et ça permet d'embarquer tout le monde parce que finalement c'est assez universel. Je vais avoir 50 ans, donc forcément j'ai pas le physique de Nagui.
Et l'autre qui vient d'en avoir 60.
J'ai pas. Oui,
dans
c'est vrai.
Dans 10 ans.
Non, mais j'ai pas le physique de Daniel Morey, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais...
J'en ai marre.
Toucher du bois.
Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis.
Daniel Morey qui a 30 ans.
Et qui vient d'avoir 27
ans. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous racontez donc de la naissance jusqu'à aujourd'hui, avec vos histoires d'amour, avec vos histoires de papa, avec des histoires aussi qui vous ont moins fait sourire. Vous passez d'ailleurs quelques années comme ça, plus rapidement que d'autres. L'écriture de ce spectacle a été motivée par les différentes scénettes que vous vouliez évoquer. Puis d'un coup, vous vous êtes dit, mais comment je vais trouver le lien? Comment je vais donner du corps à tout ça? Ou c'est vraiment le point de départ de faire ma BO et puis, enfin, ou ma cave originale?
Il y a un peu des deux. Vous savez, je travaille depuis 20 ans maintenant, ça rajeunit pas, avec Michael Quiroga et Eric Théobald, mon metteur en scène, Michael qui est mon co-auteur. Et on avait envie, effectivement, d'être le plus proche de l'os possible.
Titre.
C'est vrai. C'est vrai. Ça vient de là-bas, j'aime bien. Voilà, donc effectivement, il y avait cette envie de cette introspection, mon premier spectacle. Il y a quelques années, ouais. Je vous l'ai dit, j'avais raconté comment j'avais changé de vie après une introspection, absolument. Après un choc. Ouais. Et là, j'ai l'impression que globalement, de manière assez universelle, on a vécu un choc, une introspection. Mmh. Il y a des gens qui vont changer de conjoint, des gens qui vont changer de métier, qui vont changer de ville.
Vous ouvrez avec ça d'ailleurs, vous dites, on sort du confinement, voilà, ça fait du bien de vous retrouver.
On a tous vécu plein de choses comme ça, relativement, je dirais, violentes. Et je trouve que c'est assez universel que de remonter le passé. Remonter le passé, retrouver des émotions, ça permet de mieux profiter du présent et peut-être de mieux appréhender l'avenir.
Et de s'attacher aussi sur les points, on va dire quoi, les points affectifs essentiels qui font que vous êtes devenu l'homme que vous êtes. Parce que finalement, en se racontant comme ça, vous disséquez aussi, vous expliquez
exactement.
De quoi vous êtes fait.
Exactement, il y a quelque chose proche de l'os, assez sincère. Et plus je suis sincère, plus je suis obligé d'avouer que c'est vrai qu'à l'adolescence, avoir ce physique... où j'avais l'impression que je pouvais pas mettre une chemise sans ressembler à un gigot ficelle. Bon ben c'est vrai que ça m'a construit aussi. Donc
ouais, ça forge un caractère.
Ça forge un caractère.
On se dit, je vais me
protéger. Et une modestie.
Et surtout, je vais me protéger aussi parce que évidemment l'humour dans ce cas-là, c'est se protéger des moqueries, c'est de se dire, tu sais quoi, la vanne, je vais la faire avant toi.
Exactement.
Comme ça.
Exactement. Se servir avec assez de verve pour éviter que les autres me les servent.
Cyrano.
Je sais. Voilà, Cyrano qui est aussi un fil conducteur du spectacle.
Exactement. Ouais. Voilà. Et Cyrano justement. Justement, vous le réécrivez, on va dire, la tirade des non-merci.
Oui, c'est un Michael Quiroga qui a écrit quelques alexandrins sublimes à la fin du spectacle. Et c'est vrai que c'est la petite surprise de la fin du spectacle où c'est un... Enfin bon, je revisite cette tirade des non-merci.
On n'a pas spoilé parce que même si on sait que vous allez le faire, la manière dont c'est fait, le texte, ce que ça raconte, c'est totalement bouleversant. C'est-à-dire que c'est émouvant, c'est impressionnant. Je le dis, et moi j'ai toujours une admiration dingue pour toutes les nuances par lesquelles vous passez, toute cette capacité de jouer avec la voix, avec l'imitation autour de la musique. Je repense à Reggiani dans La Creuse avec vos grands-parents, qui m'a fait pleurer de rire.
Et puis les personnages, ouais. Les personnages, parce que c'est ça, c'est la galerie de personnages qui est de retour, et c'est ce que j'adore.
Il y a du monde.
Oui, il y a des beaux personnages, enfin je ne vais pas en dire plus, on va en parler après.
Il y a l'italien.
Moi j'ai aimé une omelette, un pique-nique moquette, et voilà. C'est un personnage très très drôle.
Ah oui, le directeur du théâtre, bien sûr.
Il vient de ce personnage, il vient à l'entracte.
Bah, il vient de ces personnages, exactement. Il est l'entracte du spectacle, c'est un directeur du spectacle.
Il existait déjà, lui.
Oui, mais il est en 2.0, là, on l'a un peu repimpé. C'est un de mes classiques, hein, on va pas se mentir, c'est un personnage que j'adore, c'est ces personnages à l'ancienne de directeur de théâtre, le coup de mon chéri, on a eu Morin, là, c'était merveilleux, mais bon, qu'est-ce que je te dise. Alors, c'est un mélange d'attaché de presse qu'on adore, de directeur de théâtre un peu à l'ancienne, ce sont des mémoires vivantes.
C'est Briali.
Voilà, il y a ça, ce sont des gens qui sont amis avec des grandes actrices, toujours, et c'est la mémoire vivante du théâtre, parce que moi, j'ai la joie de diriger ce magnifique théâtre de l'œuvre depuis 6 ans avec Benoît Lavigne et Kim Poignant. C'est l'incarnation de cette mémoire du théâtre. Louis Jouvet qui a joué, Dufilo, George Wilson, tous ces acteurs de théâtre que j'ai vus quand j'étais jeune. Et ça aussi, je le raconte dans le spectacle, c'est très important pour moi aujourd'hui de réaliser ce rêve de diriger un lieu comme ça qui a autant de mémoire.
Bah en tout cas, c'est gentil de nous le faire partager, ce rêve. C'est du 11 février au 2 avril. François-Xavier de Maison, on est ravis de vous accueillir. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Voici Morgane Caligne. Est-ce que Morgane ne vous aime pas, FX ?
Ouais, ah non, François-Xavier de Maison, je vous aime toujours pas, mais j'aime beaucoup votre théâtre. C'est vrai, j'ai toujours passé d'excellents moments au théâtre de l'œuvre. Alors attention, hein, pas pour jouer mon spectacle, parce qu'apparemment, le harcèlement, Monsieur de Maison est au-dessus de tout ça. Et je vous aime pas, mais j'aime beaucoup votre biographie, parce que très sérieusement, dedans, il y a quand même une ligne avec écrit 1989, boit son premier verre de vin. Non mais c'est génial, vous imaginez si on fait ça pour tout le monde, le gâchis de papier pour les grandes dates de Depardieu, quoi. 19 biographes qui bossent à plein temps sans revoir leur famille. Moi, mon premier verre de vin, c'était 1990, en novembre. Voilà, je suis née en décembre, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu moins strict sur les grossesses. Vraiment, quand ma mère a accouché, ça a fait un bruit de bouchon. François-Xavier.
C'est mignon. C'est super.
Bienvenue. François-Xavier, je crois qu'on peut vous résumer en disant que vous aimez la vie et les bonnes choses. Ouais, alors pardon, mais les bonnes choses, ça se prononce avec un truc de Paca,
oui,
dans la voix.
Cet accent du
sud. Si je le fais avec le ton parisien, les bonnes choses. On dirait le titre d'un quelconque film avec Fanny Ardant qui marche au bord d'une plage et qui s'en revive depuis qu'elle est veuve. Alors moi, j'ai cru au tout début que vous proposiez un spectacle dégustation de 10 grands crus. On vient, on rigole, on boit des grands crus. L'inverse d'un apéro chez moi où on vient, on rigole. Et au moment de sortir les grands crus, je me souviens que oh là là, mais j'ai une chronique à écrire pour demain, moi. Bon, désolé les gars, c'est pas ce que je veux pas, mais Jérôme, je te mets ta bière dans un gobelet pour le métro. Ouais, 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 le décès de ta mère, c'est terrible. Tu me racontes la suite en note vocale. Allez, bisous. Oh. Non. Bah, écoutez, on se lève tôt. En gros, le principe de ce nouveau spectacle, c'est que vous vous racontez à travers 10 bouteilles qui ont marqué votre vie. Le vin, c'est un prétexte, hein, c'est un peu le fil rouge pour cheminer à travers votre existence et rire avec vous. Mais quelle bonne idée que vous avez honteusement piqué. Vous êtes pas le seul à vous raconter comme ça. Hein. Je connais pas un bout de la vie de Laïla Kadour qui commence pas par une fois cuitasse stratosphérique. On commence l'apéro, ma gueule, il est 15h30, je me réveille à 8h à bord d'un porte-avions militaire avec un mec qui s'appelle Vladimir dans mon lit et qui me dit qu'il a le bras long là où il habite. Alors vous, bien sûr, c'est moins trivial que ça. On parle de grand vin, on parle de dégustation presque émouvante, mais ça serait rigolo qu'on se raconte tous à travers nos plus grosses cuites. Le jour où Leïla est devenue première dame de Russie le temps d'un été, le jour où je suis devenue la première dame de Daniel et Nagui qui aurait rien à raconter parce qu'il est beaucoup trop sain. Merci. Bon, après, Mendez et Kominek sont engagé dans cette émission, donc il a bien dû se foutre une caisse à un moment. Et les amis, j'aimerais tellement être calé en œnologie, mais à chaque fois que je tente des dégustations, j'avoue que je m'ennuie vite. Les passionnés, quand on visite des domaines avec vous, vous êtes touchés par la grâce à nous parler des heures de la robe du vin pendant que nous on patiente pour boire et enlever la robe des potes. Même en passant à table, vous êtes fascinés par les accords mais vin, c'est chiant. Dès que t'apportes un plat à table, oh mais ça, attendez, ça se mange avec un petit pouilly fumé, je reviens, puis vous faites des allers-retours infinis, on commence jamais à bouffer. Dans votre transcendance, vous pensez jamais aux gens qui ont la dalle et qui s'en foutent d'avec quoi ça se marie bien le veau, puisque le temps que vous choisissiez le vin, c'est devenu une vache depuis longtemps. Non, franchement, François-Xavier, je pense qu'avec vous, je vous aime, hein, donc j'aurai la patience. Vos spectacles, vos films, vos pièces, ça mérite quand même bien d'attendre 10 minutes avant de passer à table. Mais je vous préviens, à partir de 12, je mélange mon chablis dans du coca, j'en ai rien à foutre.
Merci, bravo. On se retrouve ce week-end à Marseille, à savoir demain et samedi.
Exactement.
L'œnologie, est-ce que vraiment ça aurait pu être aussi un autre métier pour
non,
vous?
Oui,
vous faites du vin.
Oui, je fais un peu de vin dans le Roussillon, domaine de Mirmanda avec Dominique Laporte, mais
j'ai pas avec modération, tu l'as dit ou pas?
Avec modération. Mais d'abord, quand on aime le vin, c'est avec modération. Oui. Voilà. Donc il y a non, mais c'est vrai que c'est une vocation quand même assez tardive. C'est-à-dire que c'est vraiment les tournées. Bon, mon père est un, voilà, m'a transmis le goût des bonnes choses, mais je dirais que c'est vraiment les tournées qui m'ont fait rencontrer les vignerons, les régions.
Ah, les tournées, les spectacles,
oui, les tournées
au bar. C'est ma tournée, laisse. D'accord, ok.
C'est ma tournée. Okay. Et c'est ça qui m'a fait découvrir la variété des terroirs, des personnalités incroyables.
Sauf qu'on peut pas tout aimer non plus. Il y a bien des choses qui finissent par résonner différemment.
Oui, oui, oui. On a des goûts particuliers pour la vallée du Rhône ou voilà, en ce moment pour les chenins de la Loire. Mais
vous dites en ce moment, c'est-à-dire que ça peut changer aussi,
oui,
en fonction de votre humeur.
Bien sûr, selon mon humeur et selon le moment.
Est-ce qu'il y a un vin, par exemple, de la même manière qu'on écoute une musique quand on n'est pas en forme, ou quand on est seul, ou au contraire quand on est plusieurs à table, est-ce que vous avez des vins qui correspondent justement à des ambiances, à des humeurs?
Bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis très grand public. C'est comme vous dites, la musique. Moi, je peux écouter du rap, comme écouter Glenn Gould, écouter Daniel Guichard, comme
comme du bel canto, comme du bel canto,
comme une chronique de Daniel Morin avec autant de musique, plaisir.
Parce que c'était une musique. Vous avez dit que vous étiez un homme de goût.
Ouais. Le bon. Allez, bon. C'était gratuit.
Non mais totalement. Mais c'est ce qu'il y a plus. C'est tellement de choses rarement gratuites en ce moment. Il faut en profiter. Justement, ce plaisir que vous avez de le partager sur scène et de le porter, vous l'alimentez encore une fois parce qu'on ne va pas rester que sur le vin, qui est évidemment l'accroche de la
de l'affiche.
Oui, voilà. Après, il y a le fond, il y a le corps que vous donnez.
Oui, puisque les vins, je ne fais que les citer, et c'est le prétexte. Je dis ce jour-là, face à elle, j'ai bu cette bouteille, et puis voilà. Et puis le Tokay de Hongrie, ça me fait penser à un professeur de Sciences Po que j'avais, qui est un homme qui m'a appris la liberté, la remise en question. Voilà, c'est à chaque fois des valeurs aussi qui sont véhiculées à travers ces tableaux, à travers ces bouteilles, des valeurs que peut-être moi aussi j'ai envie de transmettre à ma fille.
Et alors, ce que j'allais dire, le point de départ, c'était quoi? C'était de faire un bilan, c'était de dire.
Finalement, chaque bouteille, c'est une valeur. En tout cas quelque chose qui me ressemble, quelque chose en quoi je crois. Et effectivement, il y a ce professeur de Sciences Po, cet exilé hongrois, on boit un Tokay de Hongrie, Domaine Dinoco, mais c'est avant tout c'est cette personnalité incroyable. Il était exilé hongrois et il nous invitait à déjeuner à chaque anniversaire d'un de ses élèves, il l'invitait à déjeuner, il lui offrait une bouteille de Tokay et il me disait, vous avez bien mangé. Il était réfugié politique et il disait, nous avons un point commun, tous les deux, nous sommes fâchés avec le régime. Et c'est vrai que c'est à chaque fois voilà, il y a cette première bouteille que mes parents m'ont fait goûter. Ils ont cassé la tirelire parce qu'ils se sont dit, c'est ta première fois. Donc on veut que ce soit un moment inoubliable. Donc ils ont.
Pardon.
Ouais. Je sais à quoi vous pensez.
Est-ce que vous dites justement que certains vins doivent être réservés pour certaines occasions ou. C'est le vin qui fait l'occasion. Ou c'est l'inverse.
Moi, je crois que j'ai ce côté un peu excessif où je débouche une bouteille pour dire je t'aime, pour célébrer un moment. Et ma philosophie, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, je suis à flux tendu, si vous voulez. Je ne collectionne pas, je ne garde pas précieusement. J'ai tendance à me dire, vivons le jour même comme si c'était le dernier. Donc,
il y a une phrase que m'a dit un jour Jean-François Piège, le chef.
Eh oui.
Piège, qui est un grand connaisseur et amoureux aussi, et des bonnes choses. Et le bon vin, ça va avec. Et un jour, on parlait d'une bouteille qu'on venait de m'offrir. Et j'ai dit, alors là, celle-là, il faut que je la garde pour une grande occasion. Et il y a eu un petit moment de silence comme ça. Et Jean-François, avec sa voix très très calme, m'a dit, c'est quand tu l'ouvriras que ça sera la grande occasion. N'attends pas la grande occasion.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et puis,
c'est comme ça qu'on n'a plus de cave.
Et puis surtout, aujourd'hui, il y a une...
Okay. Tiens, c'est lundi.
Il y a des vins merveilleux qui sont abordables. Aujourd'hui, c'est plus intéressant. Bon, moi, je prends plus de plaisir à être sur des régions comme le Languedoc, le Roussillon, la Loire, qui sont des régions où il y a vraiment des coups de cœur et puis des prix tout à fait abordables. Donc
pour en revenir à votre histoire, à ce que vous racontez, parce que évidemment on est dans l'humour, donc dans la fiction, vous inventez, vous grossissez le trait, vous caricaturez des personnages, mais tout est sur une toile de fond de réalité et
oui,
de sincérité.
Je tire le fil, c'est ça qui est dingue, c'est que en fait mon père, il suffit de le citer pour être drôle, quoi. Quand il me regarde, il me fait, j'ai grossi, avant ta mère c'était ma moitié, maintenant c'est mon tiers. C'est de la poésie, c'est Audiard. Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il me dit, allez bois, parce qu'avec moi t'auras pas un bel héritage, mais t'auras des beaux souvenirs. Mais il a dit tout ça. Et c'est ça qui est dingue, c'est que...
C'est émouvant.
Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment donné, plus je suis proche de l'os, et plus c'est sincère, plus c'est vrai, et plus c'est drôle, en fait.
Et oui, et des fois, plus ça fait mal aussi, parce que pour reprendre cette image d'être proche de l'os, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans l'opération chirurgicale qui peut blesser quand vous faites de l'autodérision, ce sont des phrases qui pourraient vous blesser si elles étaient dites par quelqu'un d'autre avec un ton différent et pas le même regard souriant.
Mais quand il y a de l'image, c'est magnifique, et puis même quand c'est la tirade d'aîné. De Cyrano, pour en revenir à Cyrano. Quand
Cyrano est forcément blessé d'avoir un nez comme ça.
Il est blessé, mais il en veut à ce marquis de ne pas avoir su trouver la formule pour lui dire qu'il avait un grand nez. Il lui dit, monsieur, vous avez un nez très grand. Et voilà, ah, c'est un peu court, jeune homme. Et là, il lui dit tout ce qu'il aurait pu dire. Quand mon professeur de boxe, vous savez, dans ce vieux gymnase où même les mains puent des pieds, c'est vieux
génial.
Vintage,
c'est génial.
Qui me dit, eh ben dis donc, t'as soufflé dedans ou quoi ?
C'est ça.
Quand tu te retournes dans ton lit, tu changes de pièce.
Et bon,
l'annonce,
bah,
c'est magnifique, c'est de la poésie.
Et l'annonce, en prenant le micro du ciel, avec 1m73, j'ai un kilo.
Mais quand c'est fait avec humour, avec métaphore et avec poésie, tout passe et je trouve que voilà l'imaginaire et puis la bienveillance, on sait aussi que quand les gens veulent rire d'eux ou veulent rire avec quelqu'un.
Ouais, c'est voilà. Une politesse aussi de mettre de l'humour et du second degré, de faire un pas de côté. Bah quand oui. On se raconte vraiment.
Mais ouais. Exactement, exactement. Et puis.
Mais c'est aussi un peu une psychanalyse. Enfin, je veux dire.
Je sais pas si. En tout cas, oui, ça me fait du bien de monter sur scène, en tout cas.
Non, mais c'est évident, ne serait-ce que de parler comme ça de son père, d'évoquer comme ça son enfant, il y a quelque chose de psychanalytique. Alors, c'est drôle, évidemment, vous n'êtes pas en train de...
Bah, l'adolescence de ma fille, pleurer. C'est pas drôle tous les jours, hein, je vous avoue. Hein. Ma fille, elle m'appelle le sang. La vie, le sang, t'inquiète, le sang. Wesh, le sang. Bah, si j'avais appelé mon père le sang, c'est le mien qui aurait coulé, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai parti à la médication. L'autre jour, elle m'appelle, ma fille, je vous jure que c'est vrai, elle me fait wesh, frère.
Ouais, mon fils m'appelle frère.
Ton fils m'appelle frère, ouais. Je lui dis non, alors bonjour papa. Bon, elle m'appelait pas pour prendre de mes nouvelles, elle m'appelait pour que je lui commande un Uber, hein, c'est la base de notre relation. Elle me dit wesh frère.
Ce qui me rassure, c'est qu'on a les mêmes enfants finalement, ouais. Quelque
part. Et puis elle est écolo, ma fille, non, je pourrais en parler des heures parce qu'elle a réponse à tout, elle est écolo.
Elle
veut sauver la planète, elle veut nettoyer la planète, qu'elle commence déjà à pas ranger sa chambre, je lui ai dit.
Prochain spectacle peut-être,
hein. Non, mais. Elle a réponse à tout, c'est une grande psychologue.
Mais est-ce que ça la fait rire quand vous lui dites, quand elle dit pas de plastique, des gourdes, il faut sauver la planète.
Elle a raison, mon Dieu.
Oui, elle a raison, mais est-ce que quand vous la vannez en disant avant de sauver la planète, commence par ranger ta chambre, est-ce qu'elle rit ou est-ce qu'elle le prend mal?
Elle a une réponse, elle a déjà un coup d'avance. Elle a déjà la vanne qui va me paralyser, quoi.
Ok, boomer.
Ouais, exactement, mais c'est exactement ça. Et l'autre jour, elle me dit, je lui dis quand même, je paye des cours de maths, il y a aucun résultat. Elle me dit, tu te payes bien des cours de gym, mais il y a aucun résultat.
Mais
et là, elle me fait, ouais.
Donc c'est dans l'ADN. Gueule, hein. C'est dans l'ADN entre votre père déjà qui avait des formules.
Voilà.
Très,
mon père,
très
c'était Audiard. Moi, j'étais plus du côté de, enfin, modestement, des Coluche, des proches, c'est eux qui ont baigné mon clairement, enfance. Ouais. Et là, ma fille, ouais, elle a cet art de la joute.
De la
verbale.
Ouais. Très bien.
Elle est incroyable.
On rit énormément. Il y a des moments d'émotion aussi. Il y a une galerie de portraits. On voyage aussi. Et pas qu'à travers les années, mais aussi géographiquement. C'est la réussite, c'est le talent de François-Xavier de Maison. C'est à partir du 11 février au Théâtre de l'Œuvre et on est ravis de vous accueillir ce matin pour continuer d'en parler jusqu'à 12h30. À suivre, il y aura évidemment la bande originale, les musiques qui comptent. Il y en a beaucoup d'ailleurs présentes dans le spectacle. Et tout à l'heure, nous évoquerons avec Axel de Kellar, qui est psychologue, ce que le vin dit de nous. C'est toujours intéressant de le savoir. Pour l'instant, Fanny Ruet n'a pas pu venir. C'est Florence Mendez qui est là.
Salut tout le monde. Allez, je vous emmène aux États-Unis avec les moyens du service public, donc on sera plutôt en classe éco. Bref, là-bas, une nouvelle a fait grand bruit. Non, pas Rihanna enceinte. Entre parenthèses, quel cirque autour de la grossesse de Rihanna. Ça avait été la même chose pour l'accouchement de Beyoncé. Pourtant, c'était pas la première fois qu'elle sortait un truc coproduit par Jay-Z. Voilà. Dans le Tennessee, une école a banni l'indispensable roman graphique Mouse, dans lequel Art Spiegelman raconte l'histoire de son père Vladek rescapé de l'Holocauste. Alors Mouse fait partie des œuvres qui nous font dire plus jamais ça, un peu comme Shoah de Claude Lanzmann ou Génération Goldman avec Chaim et Matt Pokora. Raison de ce bannissement, la présence dans le roman d'une femme nue et quelques insanités. Voilà. Les opposants disent que c'est vulgaire et inapproprié. Moi, une femme nue et des insanités, j'appelle ça un date Tinder qui s'est bien passé. Ouais. On reproche également sa violence au roman. Attends, on parle d'un génocide quand même, enfin, je veux pas critiquer. Mais un génocide sans violence, forcément, c'est que t'as un peu bâclé. Hein. Alors, dans le Tennessee, tu leur demandes de raconter la Shoah. Je sais pas, il t'en faut une comédie musicale avec la chanson phare « That Show Must Go On ». Le devoir de mémoire, ils connaissent pas. Voilà, c'est les États-Unis d'amnésique. Joli. Et puis, qui ils sont, les Américains, pour faire la leçon à qui que ce soit en matière de violence? Une partie d'un, deux, trois soleils qui se finit en fusillade, tu sais pas si c'est un épisode de Squid Game ou une récré aux États-Unis, ok? Bon. Alors, Mike Cochrane, un membre de la commission scolaire qui a fait supprimer le livre du programme, a déclaré ceci. Si j'essayais d'endoctriner les enfants de quelqu'un, voici comment je le ferais. Alors, de un, c'est négationniste. De deux, vu le nombre de gamins obèses aux States, on sait que vous avez rien contre le fait de leur faire avaler n'importe quoi. Putain, mais sérieux, c'est le monde à l'envers. Les fachos qui accusent les autres d'endoctriner les gens, c'est Franck Ribéry qui se fout de la cicatrice à Harry Potter, tu vois. Il va être bien ce futur, il va être bien ce futur, hein. Vraiment, encore un génocide que l'extrême droite nie ou minimise après celui des natifs américains. J'ai hâte de découvrir dans quelques années ce qu'ils diront de la façon dont ils ont traité les Afro-Américains. On nous fera croire que le flic qui a asphyxié George Floyd en soutien à la cause Black Lives Matter, il voulait juste mettre un genou à terre. Je t'avais dit que c'était trop long, 8 minutes 46 pour un hymne national. Non, mon humour n'est pas noir, la preuve, il a du boulot dans les médias français. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'interdiction, les ventes du livre se sont carrément envolées, ou quand la censure de quelque chose ne fait que renforcer son succès, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Oh putain, j'y vais là, t'arrêtes tes conneries maintenant, ça, tu es sérieux, bordel ? Pas respecté ici. Enfin bref, voilà, je fatigue. Alors avec les élections qui approchent en France, pitié, retenez ceci, la politique c'est comme la bouffe. Quand il y a trop de conservateurs, c'est vraiment de la merde.
Merci. Florence Mendez.
Ce jeudi et tous les jeudis au Métropole, bientôt à Lille, à Bordeaux et aussi à Marseille.
Oui.
On va donc évoquer la musique dans le spectacle de François-Xavier de Maison.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter.
Alors, forcément, vous aimez, voilà, vous, oui. vous ne pouvez pas ne pas aimer Red Jenny. Oui. Et franchement, vous le servez pas.
Écoutez, je l'adore, c'était mon idole absolue. Mais imaginez-vous, c'était l'idole de ma grand-mère aussi. Je passais toutes mes vacances en Creuse, 2 mois, avec ma grand-mère qui écoutait du Red Jenny toute la journée. À un moment donné, je pouvais finir dépressif.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter.
Non mais Reggiani connaissait votre grand-mère.
Oui, alors ça c'est... ma grand-mère m'a dit un jour qu'elle connaissait Reggiani. Donc elle s'est reposée. Voilà. Mes grands-parents connaissent du monde dans le showbiz, c'est énorme. Puis elle m'a avoué quelques années plus tard qu'elle l'avait croisée en fait, un jour. À Montluçon, qu'elle lui avait souri, qui lui aurait rendu son sourire. Mais c'était ça, les grands-parents aussi. C'était une toute petite phrase pouvait prendre une importance colossale dans notre imaginaire d'enfant.
Il y a de la gym, hein, du sport aussi. Ah oui, vous donnez.
Oui. Alors ça, faut le voir pour le croire.
Jeu de jambes, là,
je fais cette choré dans le spectacle. Je fais cette choré mythique de Flash Dance, de Jennifer Beals,
avec un lancer.
N'en disons pas plus.
Ne spoilons pas le climax du spectacle.
C'est un spectacle en 3D en tout cas. Voilà.
La musique, on va en parler dans quelques instants. Je rappelle Axel de Kellar, psychologue et auteur de Ce que le vin dit de vous. On va l'accueillir après avoir entendu d'abord Mika, qui était l'un des titres que vous écoutez. En 2007. François-Xavier de Maison.
Et 2007, on vous retrouve au théâtre. Premier pas au théâtre avec François Berléand, que vous allez retrouver quelques années plus tard d'ailleurs.
Oui.
Dans une pièce qui s'intitulait L'arbre de joie au théâtre de la Gaîté Montparnasse avec Marouchka Detmers. Quel souvenir vous gardez de votre première fois sur scène?
Ben dans cette pièce, en tout cas, c'était incroyable parce que je jouais à la Gaîté Montparnasse, cette pièce à 20h, qui était une pièce de David Kayat sur le cancer, donc une pièce grave, avec une Marouchka Detmers bouleversante. Et moi, je jouais à un jeune cancérologue, et puis le soir, à 21h30, je jouais mon spectacle.
Wow.
Et donc c'était quand même un marathon incroyable dans deux registres.
Surtout, il fallait cloisonner dans le cerveau.
C'était les métastases et puis Bitoul Castor juste après. Donc c'était quand même.
Deux salles, deux ambiances.
Ça peut donner des trucs sympas.
Oui, oui.
Il faut surtout pas se tromper. Surtout.
Non, c'est-à-dire que si je regardais les radios de la patiente en disant.
Oh là là. Vous en avez pour 3 mois.
C'était baroque.
Ça se tente.
Ça se tente.
Ça se tente, François-Xavier. Il faut essayer.
Et on se chauffait avec François Berléand, Marie Parouti et Maroushka, on se chauffait avant d'entrer en scène sur cette musique qui venait de sortir, qui était le tube de l'année 2007, Mika.
Quand vous dites se chauffer, ça veut dire que là encore aujourd'hui, vous écoutez de la musique dans votre loge?
Oui, j'écoute de la musique, j'écoute des comédies musicales américaines. Annie ou 42nd Street ou voilà.
D'accord.
Ça me j'aime bien ce côté
entraînant.
Broadway show.
D'accord.
Voilà. Et puis voilà, j'ai des petits rituels pour se rassurer parce que c'est quand même pas rien de monter seul sur scène, n'est-ce pas?
Non. En 2009, vous écoutiez.
Je suis le plus obscène de la radio. C'est juste ça qui est rigolo. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile.
Et oui, on oublie que Coluche a chanté.
A raison.
Et il avait chanté Je veux rester dans le noir aussi.
Oui.
Misère.
Misère.
Pourquoi tu t'abats toujours sur les malheureux?
Ça, c'est le tournage du film d'Antoine Decaune, Coluche.
L'histoire d'un mec.
L'histoire d'un mec. 2009, c'est l'année de ma nomination au César. Et je me souviens que j'avais appris toutes les chansons de Coluche pour les jouer sur scène au gymnase avec ses musiciens historiques dans le dos, Ramon Pipin.
Et c'était au gymnase qu'il avait interprété. Voilà.
Et c'était
à la même adresse.
Dans ce même théâtre du gymnase, ce lieu mythique, et face à 600 figurants qui étaient des fans de Coluche. Et je me souviens de ce saut dans le vide avec ma salopette, mon blouson noir. Et c'était complètement fou et surréaliste cette expérience.
Est-ce que vous avez une connaissance très pointue de la vie de Coluche? Parce qu'on connaît ses sketchs, ses chansons, mais sa vie, son intimité.
Oui, j'ai moins que d'autres qui l'ont mieux connu que moi ou qui l'ont biographié. J'ai fait une partition d'un Coluche de cinéma dans une histoire donnée. Et voilà, c'était un rôle de cinéma. Il fallait le faire descendre de scène. Mm-hmm. Et puis, faire vivre au milieu de sa famille, de ses amis.
Non, mais je veux dire, vous pourriez être une sorte de fan. Il y a des fans qui sont
fan,
tels qu'ils connaissent tous les détails.
Je connais un petit peu sa vie. Je suis un fan absolu de Coluche, oui, ça c'est sûr.
Il y a même les fans qui pensent au complot sur sa mort aussi.
Alors ça, c'est encore
autre chose. Il y en a qui venaient me voir d'ailleurs sur le tournage. Et qui me apportait
des preuves que c'était pas un accident.
Ouais, j'ai pas d'opinion sur la question.
Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, c'était une actualité brûlante et que certains de ses amis, notamment ceux qui étaient à moto avec lui juste derrière en descendant dans l'arrière-pays canois, ne peuvent pas croire que ce soit une manœuvre normale d'un camion à cet endroit-là de la route. Enfin, ils y étaient.
Ah, il y a tous les ingrédients. Il y a aussi
la campagne
électorale.
La campagne électorale.
Tous les ingrédients.
Des questions se posent très légitimement, hein, bien sûr, hein, bien sûr.
Mais c'était en tout cas quelqu'un qui était qui nous manque en fait. Qui pourrait aujourd'hui entre guillemets remplacer Coluche? Parce que c'était une grande gueule. C'était quelqu'un qui osait dire des choses aussi bien à des politiques que de toucher les petites gens, et notamment avec ces Restos du Cœur qui, j'ai envie de dire, malheureusement existent encore aujourd'hui, parce que la réussite de Coluche aurait été de lancer les Restos du Cœur et qu'on n'en ait plus besoin. Mais non seulement on en a besoin,
ça aurait été son plus bel échec.
De plus en plus besoin. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais.
Ouais, c'était une personnalité hors du commun, une grande intelligence.
Mais il n'y a pas d'humoriste aujourd'hui qui mélange.
C'est pas la même époque non plus.
Ouais.
Et puis il avait cette capacité d'affronter la bêtise humaine de plein fouet. Il avait le courage de le faire aussi. Et puis il y avait peut-être un peu moins d'hystérie aussi.
Ouais, c'est pas la même époque.
De toute part.
Ouais.
Et dans votre spectacle, aucune allusion politique.
Plus ou moins. Non, plus ou moins.
Génie politique.
C'est vraiment des petits clins d'œil. Oui, c'est pas mon.
Ouais.
C'est elle qui fait de l'humour.
C'est pas mon registre. Hein.
Oui, pourtant vous aimez Coluche, qui lui faisait des vannes sur la pub à la télé, sur on nous prend pour des cons, sur.
Oui, c'est vrai que c'est pas mon registre. Après, bon, mes personnages, ils sont quand même un peu. Enfin, ils reflètent quand même mon opinion. Dans le précédent spectacle, quand je fais Darwalou, où vous avez cette Française exilée à Marrakech qui traite tout le monde comme des. Elle me vole mon argent. Quand effectivement, vous avez ce personnage d'Indien qui réclame des comptes à Christophe Colomb. Bon, voilà, c'est une manière aussi de dire ce que je pense, de donner mon regard, mon point de vue.
En 2015, vous écoutiez.
Disparu, tu as disparu.
C'est du pain béni, hein, cette chanson.
Oui.
C'est très tendance en tout cas. La musique des années 80, ça devient maintenant un incontournable.
Et puis ça nous permet de parler de la série.
Évidemment, du même nom.
Pourquoi ? Alors cette chanson, pour ça j'imagine bien, vous incarnez un commandant de police.
Oui.
Ce sont des rôles très très en vogue hein, maintenant d'incarner des policiers. On a eu une grande période. Hein,
c'est police. Disparu, c'était sur France 2.
Bah, c'était l'un des plus premières. Gros succès de fiction française policière. Ça a été un vrai événement. Hein. Vous avez plus de 5 millions tous les soirs pendant
4 semaines.
Pendant 4 semaines. Ça a été un succès incroyable et j'avais adoré tourner cette série à Lyon. J'avais des partenaires extraordinaires.
Est-ce qu'il y a un rôle que vous aimeriez incarner dans une série aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu la figure du policier, il y a la figure du médecin, il y a un certain nombre de figures comme ça qui reviennent des enquêteurs mais qui sont soit un peu différents, soit. Qu'est-ce qui...
Moi j'adorerais jouer dans les séries anglaises. Pour pouvoir parler comme ça. What a fucking British mate. My name is Thomas fucking Sharpie.
Ah, il y a une super série en ce moment.
Peaky Blinders.
Il y a une super série en ce moment sur Arte qui s'appelle Vigile.
Oui.
Une enquête dans un sous-marin. C'est absolument fascinant et c'est hyper bien foutu. Un truc avec la BBC et Arte.
Oui,
c'est super bien. C'est mon conseil jour.
J'adore les séries anglaises. Ouais. J'aime aussi les séries comme Narcos ou Los Americanos son hijo de puta que voy a matar a todos, sabes. A mí no me importa la coca, solo me importa el dinero.
Et pour une série France 2 alors, ça serait plutôt quoi?
Et pourquoi
je les ai fait les séries France 2 là.
Non, et pourquoi a disparu? Pourquoi
on l'a pas fait de suite parce que c'était comme ça, c'était bouclé. Bah c'était bouclé. On n'allait pas les emmener à la neige,
vous voyez.
À un moment donné, disparu à la neige. Disparu à Caracas. Oh, laissez-moi finir mon cocktail quand même.
Redisparu.
On sait jamais.
Ça.
À la neige.
En 2016, une bonne idée. Disparu à la plage.
Formidable.
En 2016, vous écoutiez.
Talk to me. Grosse ambiance. Merci.
Et c'est en français qui chante.
Oui, c'est Yodelis, Maxime
Nucci,
qui avait composé la musique du maître d'école, un documentaire que j'avais produit, un documentaire.
Et de comme un frère.
Comme des frères, c'était Revolver. Oui, Yodelis, il avait composé la sublime bande originale du film d'Émile Théron, qui est un documentaire sur un maître d'école qui part à la retraite. Et on avait suivi toute sa dernière année. C'était Émilie qui avait fait un travail remarquable.
On en avait parlé ici.
Mais c'est un film dont je suis très fier. Je suis très fier qu'il ait pu exister. Et à la fin, il y a cette scène magique où toutes ces générations d'élèves, il a tant transmis. L'attendre sous cet arbre où ils allaient en excursion.
Pour lui péter la gueule.
Non.
Et le tue.
Et c'est qui votre maître d'école à vous?
Il y a un professeur qui a compté pour moi, c'est mon prof de français, monsieur Berléan, qui m'avait fait faire
Berléan?
Doléan. François ne m'a rien enseigné.
Il vous a fait saigner du nez quand il jouait avec vous, mais
Les oreilles aussi.
Donc Doléan, c'est ça.
Non, François Doléan, qui j'ai démarré le théâtre à l'école, c'était mon prof de français. Il m'avait fait un fait d'eau. Voilà.
Donc, et c'est lui qui vous a donné goût?
Non, je l'avais déjà, mais il m'a donné une tribune extraordinaire. Ça a été pour moi une explosion de joie, existentielle.
François Xavier de Maison est notre invité, puisque on est en train de aider François Berléand à se
reconvertir,
à s'en sortir. Il continue malgré votre départ à jouer par le bout du nez.
Exactement.
Avec Antoine Duléry.
Il est tout seul
Ce qui est bien avec François Berléand, c'est que on peut tout dire comme il comprend rien et qu'il est sourd. C'est génial.
C'est pas une très très belle personne.
Il y a un moment, il faut le dire.
Un jour, il va faire une déprime. On va regretter ça.
Il va laisser une lettre.
C'est un partenaire génial et un homme qui ne se prend absolument pas au sérieux.
Voilà. Non.
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et les auditeurs le savent.
Évidemment. Et on l'a compris.
Et on ne peut pas mentir aux Français. Vous savez.
Pas ici, monsieur, en tout cas.
Léla Cadour, bonsoir. Mon programme.
Axel de Kellar.
Je suis saoul.
Bonjour Axel, vous êtes psychologue et auteur de « Ce que le vin dit de vous » aux éditions Ellipse.
Oui.
Autrement dit, dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu es, ou dis-moi combien tu bois. C'est la quantité ou c'est le choix du vin?
Les deux, dis-moi d'abord ce que tu bois, mais Avant tout, il faut savoir où l'on achète son vin. Est-ce qu'on l'achète chez l'épicier d'en bas, chez le caviste à qui l'on rend visite tous les deux jours, un salon des vignerons où l'on va boire les paroles du vigneron dans une foire au vin, ou tout simplement à la source, chez le producteur. Ensuite, on peut boire sur le champ ce qu'on en achète, ou bien devenir un pro du livre de cave sur Excel avec prévision sur 20 ans. Et finalement, si tu me dis boire un grand sauterne sur une daube de sanglier, je te dirai qui tu es. Et si tu ouvres un Bordeaux supérieur sur un foie gras poêlé, ça parle également de toi. Boire un vin, c'est boire un terroir, une vigne, un vigneron ou une vigneronne. C'est boire de l'histoire. Parfois, c'est voyager dans ses souvenirs, raviver des émotions. Il y a toujours une identification à ce que l'on mange, et le vin est le plus signifiant des aliments. Dans l'Ancien Testament, après le déluge, Noé commence par planter de la vigne. Le vin devient alors ce qui relie l'homme à la terre.
Attendez, Axel, excusez-moi, je vois que vous avez bien préparé l'émission. On est là pour parler ensemble.
D'accord.
Plutôt que de vous écouter en train de lire ce que vous avez écrit. Je suis désolé pour tout le travail que vous avez fait. Oui, c'est passionnant, mais on est plutôt dans l'échange, un peu comme on peut être dans le vin.
Tout à fait.
D'ailleurs, parce que je pense que l'idée du vin aussi, c'est plus de le partager, de trinquer. Que de le boire seul, par exemple. Là aussi, on peut expliquer à quelqu'un qui, il ou elle, est à boire un vin seul, ou plutôt à le partager, à trinquer avec des amis.
Il y a toutes les manières de boire du vin également. On peut le boire seul, ce qui révèle quelque chose. On peut...
Mais quoi, par exemple, boire un vin seul, c'est quoi? C'est la tristesse?
Ça m'intéresse.
C'est la vie de Daniel, donc.
Soit c'est une étude très personnelle, soit, effectivement, c'est plus dans la tristesse. Le vin s'inscrit avant toute chose dans le partage, puisque c'est ce qui relie l'homme à la terre, ce qui le relie au ciel aussi, puisque le vin s'est toujours inscrit dans un rapport au divin, depuis l'Égypte ancienne où les pharaons emportaient des amphores dans leurs tombeaux pour le passeur ou pour les dieux. Donc il y a toujours ce rapport à la terre, au divin, et dans cette verticalité s'inscrit également le partage avec l'autre, puisque ça ne se fait pas seul, ça n'est pas la finalité.
Donc on est au bord de la déprime si on boit un vin seul plutôt que de le partager avec ne serait-ce qu'une autre personne.
Si c'est régulier, oui.
T'as compris, Daniel?
C'est un moment pour soi aussi, quoi. Un moment de partage avec soi.
Non, arrête, Leïla.
Merci.
Franchement.
François-Xavier, il vous arrive de boire du vin seul?
Bien sûr.
Jamais. Je ne bois jamais une bouteille seule. Mais du coup, j'ai des amis prétextes.
Il y a pas leur prénom, ils les amènent dans la
rue. Oui. L'autre jour, quand le type est venu poser mon compteur Linky, je lui ai dit, ça se passe bien, tu bois un coup. Je me suis fait peur, quand même.
Est-ce que tout à l'heure, je posais la question à François-Xavier de Maison, s'il y avait pour lui, dans ses relents, dans ses souvenirs, en tout cas, de ce qui pouvait revenir en mémoire, s'il y avait le vin rouge ou le vin blanc? Est-ce que là aussi, il y a une différence entre les buveurs, entre guillemets, de vin rouge et les buveurs de vin blanc?
Ça dépend surtout de la saison. Est-ce qu'on peut boire en plein hiver la même chose qu'en plein été? Ça dépend de l'humeur aussi, de l'envie de ce que l'on peut boire.
Mais quand vous dites « dis-moi ce que tu bois, je dirai qui tu es », est-ce que ça dénote justement d'être simplement attiré par l'alcool? Ou alors, il y a ceux qui ont le bon goût, il y a ceux qui savent exactement quel vin, à quel moment, avec quel plat, ou à quel moment, à quel endroit, à quelle saison, et qui sont des connaisseurs et peut-être qui voient le vin d'une manière un peu trop chic?
Il y a différents types de buveurs, et des buveurs compulsifs, des collectionneurs, ceux qui ne jurent que par le vin bio. Donc il y a autant de types de buveurs qu'il y a de vins. Et au-delà de ça, il y a certains amateurs qui vont s'émerveiller devant tel vin que un autre amateur
n'appréciera
pas du tout.
J'entends, mais qu'est-ce que ça traduit justement ?
Ça traduit sa propre personnalité, c'est-à-dire ça traduit son rapport d'être au monde et ça traduit son rapport à l'autre.
Donc le snob dans la vie sera snob dans son comportement de vin, de
parfum. Si on veut le qualifier comme ça.
Je sais pas comment l'appeler, mais je vais chercher les mots là où ils sont.
Après, ça peut être un amateur éclairé. On peut se dire qu'il y a celui qui boit... qui boit son petit vin rouge, même s'il y a plus vraiment de petits vins. Il y a toujours des grands vins, mais des petits vins, il n'y en a plus, parce que...
C'est pas une question de budget, en fait. C'est pas une question de
qualité. Non, on peut trouver des très, très bons vins, faits par des prix tout à fait raisonnables, quelle que soit la région.
Alors justement, puisqu'on ne parle jamais de prix quand on évoque un cadeau, mais offrir du vin, ça veut dire quelque chose aussi?
Ben, si vous m'offrez une bouteille de vin en plastique, oui, ça voudra dire quelque chose.
Vous avez une bouteille de cristalline qui vous attend.
Millésimé.
Ça vient signifier la valeur que vous accordez à l'autre, puisque le vin, au-delà d'un bien consommable, est un signifiant du lien à l'autre. Donc, soit vous êtes un amateur, auquel cas c'est une valeur. Si vous n'y connaissez rien en vin, ça n'aura pas de valeur si vous offrez une bouteille. Mais ça dénote de la valeur que vous accordez à l'autre et puis de l'image que vous voulez renvoyer de vous-même également.
Alors, il y a, puisque vous parlez d'être connaisseur ou pas, il y a de plus en plus, il y a un véritable engouement pour les cours d'œnologie. Comment l'expliquer, ça?
Oui, alors, il y a un regain d'intérêt très fort pour le vin depuis une trentaine d'années. Où l'image du vin a complètement changé. On est sorti des clivages des Bourgogne-Bordeaux, des petits vins, des grands vins. On est surtout dans la recherche d'un terroir, d'une diversité, de nouveautés et d'une passion partagée avec le vigneron qui se retrouve dans le partage avec les autres. Les cours d'œnologie s'inscrivent là-dedans puisque ça vient recréer un besoin de partage qui vient ancrer l'homme dans la terre. Et ça vient s'opposer à toute l'horizontalité de la société qui dans l'ultra-communication avec le télétravail, le téléphone portable, Internet, il n'y a plus d'enracinement. Le vin vient réenraciner l'homme qui en a grand besoin aujourd'hui et qui est demandeur de ça. Et le vin étant l'objet, entre guillemets, le plus signifiant du lien, et tout naturellement mis à l'honneur.
Mais pardon, on pourrait en dire autant de l'huile d'olive, c'est l'enracine.
Absolument pas.
Pourquoi pas?
Il n'y a personne qui trinque à l'huile d'olive.
Non, parce que c'est
non,
très,
parce que j'ai
l'huile d'olive, c'est très bon et il y a des variétés.
Je vais juste finir ma phrase. On est dans l'enracinement, on est dans l'arbre de vie qu'est l'olivier, et on est avec une huile qui est de plus en plus d'ailleurs conseillée par tous ceux qui prônent la santé, on en parlera sans doute demain avec Thierry Marx, et elle est présente sur toutes les assaisonnements,
C'est un aliment fondamental.
Ce que je veux dire par là,
également.
C'est que le lien à la terre, on peut le trouver, ne serait-ce que dans les endives que l'on mange, les carottes, les produits, et pas uniquement le vin.
Alors non, parce qu'il n'y a pas d'identification ni à la terre, ni au vigneron. On a des dizaines, peut-être des centaines de types de sols. On a des centaines, voire des milliers de cépages. À chaque terroir va correspondre à un certain nombre de cépages. Donc il y a déjà un choix, une adaptation à la terre, un travail d'une certaine manière de la terre. Et quand vous achetez une bouteille de vin, vous pouvez en retrouver la zone géographique, voire le morceau de parcelle d'où il est issu. C'est ce qu'il y a de plus identifiable, le vin. C'est ce qui relie donc le plus à la terre. Et puis le producteur d'huile d'olive, vous aurez du mal à le rencontrer. Alors que le vigneron, vous pourrez.
Je peux vous en présenter.
Il y en a quelques-uns.
Dans les pays où l'huile d'olive est très importante.
Et l'huile d'olive, qu'elle soit tunisienne, grecque, italienne, espagnole ou française, n'est pas non plus la même en termes de goût et d'ensoleillement. Merci Axel de Kellar d'être venu, psychologue et auteur de Ce que le vin dit de vous aux éditions Ellipse. Et vous êtes merci pour le travail que vous avez fait. Vous êtes très très bien sorti. Vous plonger dans vos notes. Il va se plonger dans les siennes de notes. Ah bon, c'est Alexandre Cominette.
C'est lui. Quel plaisir de vous retrouver, les amis. Surtout toi, Leïla.
Oui.
Vraiment, hein, ça a été ces vacances, cette quarantaine. Les Arabes. Ça, c'est les Arabes. Ah bon, oui, c'est les Arabes. Non, on m'a dit cette fois tu remplaces Crédville.
Qu'est-ce qui te prend?
On m'a dit tu remplaces Crédville, donc il faut que je sois au niveau. Voilà, c'est fait. Vous n'êtes pas content qu'on chante. Bref, demain commence.
Très étrange.
Les JO d'hiver de Pékin. Et beaucoup appellent au boycott.
Arrête de crier!
Et je parle, alors enlève ton casque. La Chine.
C'est pas son casque.
Je peux travailler ou merde?
Oui, allez.
Donc beaucoup de gens appellent au boycott, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai lu un article là qui disait la Chine va-t-elle devenir nouveau maître du monde? Ouais. Ça m'a fait rire parce que la Chine, c'est quand même l'empire, la muraille, le communisme, le textile, les baskets, les téléphones, les contrefaçons, les vapoteuses, les restaurants, le prêt-à-porter, les quincailleries, les supérettes, les pressings, le Club Med, les hôtels, les aéroports, le château, le vin, les bars à tabac, des clubs de foot. Bref, la Chine, c'est la vie. Hein, donc, il n'y a pas de nouveau maître du monde. Hein. La Chine est maître du monde depuis très très longtemps. Hein, c'est nous les nouveaux clodos. C'est plutôt ça. Hein. Qu'est-ce qu'on devient, nous les occidentaux, franchement? Ainsi, comme titre, il y avait eu La France, les nouveaux maîtres du monde. là j'aurais été choqué. Hein, là ça m'aurait bien fait marrer. Hein, parce qu'entre nous, tu peux pas être maître du monde quand dans ton pays, t'arrives pas à maîtriser tes ronds-points. Hein, en Chine, ah oui, en Chine, les gilets jaunes, ça n'existe pas. Déjà parce que ça ferait ton sur ton. Bam! Blague raciste.
Non.
Non, mais je parle de la France, mais tu me dis l'Espagne, le nouvel empire, je te réponds. Excellent. Par contre, tu me dis Allemagne, le nouvel empire. Là, j'ai un peu le genou qui tremble, Nagui. Je te le casse. Ouais, tout de suite, je me casse d'ici. Non, 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 Samuel, on prend pas le train. C'est une très mauvaise idée. Ce que je veux dire par là, Nagui, c'est que nous, les Occidentaux, on est baisés. La preuve, on est en train de tout vendre. Hein, tu vas à Londres, à Paris, à Madrid, n'importe où, on te dit, alors ça, là, maintenant, ouais, ça appartient à des Russes. Voilà, ça, non, ça, c'est les Chinois. Ça, c'est les Qataris. Ça, c'est les Saoudiens. Ça, c'est un mec du Bahreïn. Bon, après, on peut dire que les pays du Golfe nous la mettent dans tous les trous. Hein. Tiens, remets-moi une Suze. J'ai l'impression que l'Europe, on est devenu un magasin en liquidation. Je te jure, tout est vendu, bradé. Bientôt, ils vont racheter France Inter. Prépare-toi, Nagui-chan. On est complètement désespérés. Tu sais combien de gens j'entends dire autour de moi, non mais moi j'en ai marre, franchement, je vais me barrer vivre en Colombie, dans une ferme autogérée, en permaculture. Bon, après 6 mois, tu les croises à Paris, ils te disent « Ouais, alors en fait, c'est pas du tout comme j'imaginais. » Bah ouais, il y a une différence entre vivre dans la jungle ou à Oberkamp, enfin, ça c'est sûr. Puis tu risques pas de te faire emmerder par les FARC au but de Chaumont. Hein, le truc le plus exotique des buts de Chaumont, c'est que t'as des juifs le samedi qui marchent en regardant le sol et en se disant « Comment pourrait-on faire pour encore plus contrôler le monde ?» Je dis ça parce qu'en France, ils ont fait un sondage. Les juifs ont-ils trop de pouvoir dans l'économie ? Alors, je sais pas ce qui est le plus grave entre le sondage ou les réponses. Ouais, hein, parce qu'il y en a qui ont dit non. Bref, la Chine, pour moi, c'est les plus forts. C'est ceux qui produisent le plus. En même temps, c'est normal quand on respecte pas les... comment ça s'appelle ? Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Bah ouais, mais c'est pas fair play. Hein, c'est comme si tu veux au foot, mais il y a une équipe, il n'y a pas de gardien. Nous, on paye des congés, il y a des jours fériés, il y a des grèves, il y a des... Ouais, on aimerait une augmentation. Hein, alors qu'en Chine, avec 3-4 Ouïghours, tu refais une collection Zara en une après-midi. Après tout ce que je viens de dire, je suis quand même hyper fier d'un truc, c'est que quand les Chinois ou les Saoudiens rachètent des grandes marques européennes, eh ben, ils viennent claquer leurs bénéfices ou déposer leur fric chez nous, en Suisse. Donc Chine ou pas Chine, moi je finirai cette chronique parce qu'on a tous dit après avoir éliminé la France à l'euro, hop Suisse.
Merci Alexandre Kopnek.
Et Alexandre, on te retrouve en spectacle les vendredis et dimanches, où ça ?
Au théâtre Beau-Saint-Martin.
Voilà.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui ?
Je veux parler de moi, Nagui, en plein Covid, j'ai eu la grippe. La grippe, quoi, le virus des ringards.
La loose. Même pas le Covid en plus, c'est ça qui est dingue. Arrêtez. C'est ça qui est dingue.
Et c'est moi.
Tanguy Passureau, ça sera à suivre après les infos. François-Xavier Demaison est notre invité jusqu'à 12h30. Nous aurons également droit à l'interro-culture de Leïla Kadour-Bodadi et aux excuses, j'espère, de Daniel Morin.
Et c'est la bande originale sur France Inter, c'est la deuxième partie.
Absolument, merci Laetitia. Pour aujourd'hui, écoutez ça.
Foucherai entre Jean Zé, et c'est.
Nous n'avons pas de cœur.
J'étais sympa, je m'appelais être sympa.
Non, c'est pas la peine. Mais vous êtes la bienvenue, nous parlons de vin et d'alcool aujourd'hui.
Pas que.
Oh le vilain.
Ça n'est qu'un prétexte, je le rappelle.
C'est ça. Mais c'est pour
et on a qu'une orthophoniste.
Super, je crois que c'est la Saint-Laetitia, bonne journée.
Elle reviendra à Jean toute l'après-midi pour vous informer. Et à 13h, rendez-vous avec le journal de...
13h.
C'est l'original avec les Morgane Gagnon. Florence Mendez, Alex Kopnek, Tanguy Passureau et Daniel Morin.
Ah oui, notre invité, je vous regarde de maison.
Je vais le prendre très mal, hein, que tu dises Daniel Morin en me regardant.
Il y a trop. Oh, bah, tu sais, ça, les couples, hein, fusionnels. C'est ça. C'est vrai. François-Xavier de Maison, vous avez raison de préciser, il n'y a pas que ça. Le prétexte est de parler du vin, oui, mais il y a votre qualité, évidemment, d'acteur, qualité aussi d'imitateur. Et je me demandais si, finalement, vous chantez juste, donc vous avez l'oreille. Est-ce que c'est cette oreille-là qui aide à imiter aussi ? C'est de savoir exactement quelle est l'intonation, quel est le débit, l'articulation pour faire la voix de Cluzet ou d'autres.
Oui, c'est la définition de l'imitation, ça, non ?
Oui, c'est ça.
De retourner la musique. Vous avez donné la définition de l'imitation.
Je ne sais pas, je n'ai jamais su imiter.
Non, mais c'est.
Nagui, on peut sortir des dossiers.
Attention, il sait faire plein de trucs. Parce qu'il sait faire l'omelette.
Oui, je sais faire l'omelette.
Ah, démonstration.
Non, mais c'est vrai que c'est. Quand on fait des personnages, qu'on a envie d'illustrer, c'est voilà, il y a de temps en temps un personnage qui arrive. Alors j'en croise des connus comme Cluzet, que un type extraordinaire. J'adore ce que tu veux, le petit Alex, il est brillant. Toi, vraiment, je suis le parent de ton fils.
Il est génial. Vous l'avez déjà rencontré, vous
avez. Ben, j'ai tourné avec lui, c'est un acteur que j'adore.
Mais nous aussi, mais vous vous êtes amusé parce que là aussi.
Mais il est venu me voir sur scène et je l'ai fait sur scène et voilà et ça l'a beaucoup fait rire. Mais c'est un acteur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec qui on avait fait Normandie nue de Philippe Leguay, un film sur un village
qui se mobilise
et qui décide de poser nu pour un grand photographe américain. Ça fait partie. Les personnages, ils servent à illustrer, à un moment donné, une situation.
Oui, mais il y a aussi les traits de caractère. Il y a encore une fois ce directeur de théâtre, ce professeur de boxe, cet Italien qui veut aller draguer votre femme. tout ça, ce sont des personnages proposés d'ailleurs par vos co-auteurs, votre metteur en scène.
Les personnages, ils viennent vraiment de moi. C'est à un moment donné, je me réveille le matin et puis
Un personnage né justement avec la voix, avec le geste.
Oui, c'est ça. Je prends des petites photos et puis je mets plus ou moins de temps à les développer. Puis un jour, ils arrivent et puis ils sont là. Et puis ils sont plus forts que moi. Il faut que ça sorte, quoi. Sinon...
Divin, ça fait du bien en tout cas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous le vivez. On le sent, de retrouver la scène, de retrouver le spectacle, de se retrouver dans une salle, à partager des plaisirs, des rires, des éclats de rire.
D'ailleurs, je suis très ému de retrouver le public et je pleure pendant 15 minutes. J'arrive sur scène et je dis, vous m'avez manqué, je pleure pendant 15 minutes.
Non, mais blague à part.
Non, c'est vrai, il y a une émotion, bien sûr, de retrouver la scène, mais c'est fabuleux que les gens continuent d'aller au théâtre et on ne peut que les remercier.
Absolument. Et pour être allé voir hier soir Stéphane de Groot et Valérie Bonneton sur scène, de revoir aussi comme ça des théâtres pleins et qui éclatent de rire,
ça fait du bien. Spectacle vivant, c'est unique, il se passe quelque chose, c'est un vrai moment de... Un vrai moment de partage qui n'appartient qu'à nous.
Ouais, et puis c'est suspendu dans le temps. C'est-à-dire qu'on l'a vécu, mais voilà.
Exactement.
C'est pas un DVD.
On oublie quelqu'un qu'on a vu à la télé, mais on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a vu sur scène.
Absolument d'accord. Absolument d'accord. Voici Tanguy Pastureau.
C'est vrai.
Vous êtes sans doute aperçu de rien parce que je suis très discret, mais lundi, mardi, mercredi, j'étais pas là.
Mais si.
Oui, c'était ça le truc qui manquait. Nagui, je suis sûr que vous avez mis 10 fois la main dans le falzar en disant non, j'ai bien mis mon slip, mais alors qu'est-ce qui cloche? Et oui, j'étais malade, je vous raconte. Lundi matin, je me lève, je vais pour faire mes 400 pompes, et là, au bout de 380, je m'effondre. J'ai beau me dire, allez, passe-tu, va au bout, si une invasion de zombies ou le retour des communistes, tu seras content d'avoir de la force pour les éclater. Je me sens, mais épuisé, j'ai la gorge en feu, le nez qui coule, je respire comme Dark Vador quand il a zappé sa ventoline. Bref, comme tout homme qui a plus de 37,5, je me dis, je vais crever. Je rédige mon testament, je lègue ma collection livre de la Pléiade à Amel Bent pour la vanne, et je me rends en pharmacie, persuadé que c'est le Covid. Enfin, me dis-je, je suis le seul de l'équipe à pas l'avoir eu. Nagui avait même chopé le premier variant. C'est ça les pionniers. Si vous voyagez avec lui dans un pays où il y a le choléra, descendez de l'avion. Derrière Nagui, c'est une forme de bouclier. En club échangiste, pareil, s'il y a une seule personne avec une ch'touille, elle ira faire frotti-frotta sur lui. Et vous serez peinard à boire des verres avec Pierre Bonte. En lui disant, j'aurais pas cru vous trouver ici. Non. Là, donc j'arrive à la pharmacie, il y a une file d'attente, des femmes dignes soutiennent des hommes se tordant de douleur. Puis c'est mon tour. La dame sort sa tige, phrase qu'on prononçait avant le Covid uniquement quand la soirée avait pris un tour inattendu, et me dit narine gauche ou droite. Bon, je dis la droite, tout en imaginant le dilemme des centristes qui refusent de choisir et se font défoncer le milieu du nez. Ah, maintenant ils ont 3 trous, enfin encore 12, et Bayrou c'est de l'emmental, quoi. J'attends 15 minutes dans la pharmacie, certain d'être positif, je calcule déjà le nombre de jours d'ITT qu'il me faudrait pour rattraper Plus belle la vie, sachant que j'en suis au générique du premier épisode. Donc la réponse est 4700 jours, la durée de la dépression que va se taper Anne Hidalgo après le premier tour. Et là, la dame à la tige, je pense que le soir elle se déguise en licorne, me dit c'est bon, vous êtes négatif. Je lui réponds, je suis pas venu pour parler de ma psychologie, d'autant que vous la connaissez vraiment, vous, ma vie, je veux dire ce qui se cache sous les paillettes. Puis je comprends que je suis négatif au Covid. Je sors de la pharmacie, je me dis mais alors si c'est pas le Covid, à quoi est dû cet état général? Je me sens comme Jean-Yves Le Drian à la sortie du premier jour d'un stage de full contact. Et là, je pense cancer, fin de vie, foutu pour foutu, je m'éclate, je me dis en traversant hors du passé
passage piéton. J'appelle SOS Médecin qui me répond qu'un médecin va venir chez moi dans un délai alors pouvant aller de 5 minutes à 3 heures. Je me dis, c'est Chronopost qui va livrer le docteur. Il va sortir d'un carton et je devrais expliquer à ma femme que non, je n'ai pas commandé un mec. Alors le type arrive, me fout un bâton sur la langue, sans le magnum chocolat blanc, parce qu'il a dû le bouffer avant, ce radin. Hein, il me dit, on va prendre votre fièvre. Puis ajoute, non, rhabillez-vous, on fait plus comme ça aujourd'hui. Hein, vexé. Moi, je dis, je sais, mais bon, on a le droit de faire une pause quand même. Hein. Et là, le verdict tombe, j'ai une petite grippe. Et le docteur me regarde consterné, parce qu'en pleine épidémie d'Omicron, il y a déjà des gens qui chopent le variant BA2, le tout neuf, quoi. Ouais. Moi, j'ai le virus de la France d'avant. La grippe, comme les darons, la maladie de boomer, quoi. Je pensais qu'avec les animateurs de nostalgie, qui avaient la grippe, qu'on les entend dire, et tout de suite, souvenir, c'est John de Desireless, puis tout ça, et tac, c'était la grippe, avec François Feldman en studio, qui disait, ah bah non, bordel, c'est ma seule interview aux 27 ans, il va pas crever maintenant, Mitch. Hein, les animateurs de nostalgie s'appellent, oui, Mitch, hein, même les femmes. Mais ici, à Inter, station branchée, hein, malgré la présence à l'antenne de l'autre plouc, là, comment ça s'appelle? Oui, je sais, vous avez tous pensé à quelqu'un de différent, c'est ça qui est marrant. Bon, bah, Inter, tout le monde a eu le Covid. Daniel Morin, dont on peut tout dire, mais pas qu'il représente la modernité. Si Nicki Minaj veut faire un featuring, elle dit pas à son agent, appelle Daniel Morin. Bon, bah, je suis sûr que même lui a eu le Covid. Il a été absent récemment, officiellement, pour se produire sur un bateau dans le cadre de la tournée H-Tendre. Mais je suis sûr qu'en fait, il avait le Covid. Et moi, comme un ringard, j'ai eu la grippe. Enfin, fuck, quoi. Même Laurent Voulzy a eu le Covid. J'adore Voulzy. Mais ce qui met lui pour sa habillé dans le monde du théâtre, on appelle ça le rideau. Il faut quand même pas déconner. Et encore, quand je parle de grippe, je suis sûr que j'ai une souche de 85, la même que la chanteuse Bibi a eu à l'époque. Les Modern Talking ont eu ma grippe. Moi, quand je vais à New Delhi, je prends un âne fromage, je développe la lèpre de 1750. Quand on sait que le gel qu'ils font en Sibérie là, va libérer des virus de l'ère de Néandertal, alors pardon, mais j'ai pas besoin d'écouter Christina sur RTL pour savoir que le premier à choper la gastro de l'homme-singe, ça va être moi. Tout ça pour vous dire que je me suis fait 3 jours de grippe. J'ai eu froid, puis chaud, puis froid. Par jour, j'ai retiré puis remis 700 fois mes fringues. Une carrière de stripteaseuse en accéléré. Comme j'étais seul, je me suis mis à moi-même des billets dans le caleçon. Bon, bah, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et hier, ça allait mieux. J'ai pris le métro. Je me suis mis à me frotter sur la barre centrale. Je les ai bien chauffés, hein, les usagers. J'ai fait beaucoup pour les transports en commun. Madame Pécresse, filez-le-moi ce passe Navigo gratos parce que je le mérite. J'ai même léché la barre, d'ailleurs. Ah, oui, histoire d'avoir le Covid. Enfin, comme vous, quoi. Évidemment. Comme vous.
Merci, Tanguy Basso.
Ça va pas mieux.
Hein. Tanguy, tu es en spectacle, en
démonstration. Le 25 février, tu seras au Théâtre Galli à Sanary-sur-Mer, bien sûr.
Oui. François-Xavier de Maison, à partir du 11 février jusqu'au mois d'avril, au Théâtre de l'Œuvre, tous les soirs à 21h. Ce spectacle qui est aussi une épreuve physique.
Malgré votre physique improbable.
Je parle pas pour nous. Non, mais dites-le à votre fille. Non, mais vous vous donnez.
Oui, c'est physique. C'est très physique. Mais je suis très très physique, mais je suis très athlétique.
C'est vrai.
Et la boxe, énormément de sport.
Et la boxe, vous l'avez pratiquée?
Je l'ai pratiquée, oui. Je fais un peu de vélo électrique là, dans le sud. Voilà, un peu de footing, un peu de. En fait, j'ai fait tous les sports, j'ai essayé tous les sports, que des sports qui servent à rien parce que j'ai jamais appris comment me défendre. J'ai jamais fait de karaté ou de choses comme ça.
Oh mais non, mais je pense boxe, pas. Je pense pas. Oui, la boxe, ça peut aider.
On a fait sur vous, surtout. Peut-être.
Et puis, oui. Je sais pas. Non, c'est pas le premier mec que t'as envie d'énerver, François-Xavier de Maison. Parce qu'il y a un.
C'est vrai qu'il y a quand même un.
Il y a côté carrure. Oui, je pense qu'à vous.
Massif, trapu.
Oui, c'est ça, trapu.
Toi aussi.
C'est le mot. C'est
trapu. Sans qu'il faut pas l'emmerder non plus.
Non. C'est comme Leïla Kadourbaudadi. Faut pas l'emmerder, Leïla.
J'ai pas l'air comme ça, mais me frottez pas trop près.
Non.
Quelle est la particularité, bien sûr. Quelle est la particularité du Tartuffe qui est joué actuellement à la Comédie française.
C'est avec Bougenin.
Il est
c'est
tunisien. Avec...
Non, pas Comédie française.
C'est la Comédie française.
Mise en scène. Yvo Vanneau.
Ouais, ça c'est la mise en scène. C'est en effet le.
Qui a dit
le
tunisien
un le comédien toi, principal et. Non.
C'est une. L'époque qui a été choisie. C'est une époque différente.
Il joue avec
c'est...
des masques.
C'est lié. C'est pas lié à la mise en scène. C'est lié en effet.
À l'époque.
Au costume. Pas à l'époque ni au costume. C'est les 400
à la langue et au texte.
En fait,
les 400 ans de Molière.
Absolument, ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que le texte que
très patiente. Oui, d'accord.
Voilà, mais j'essaye de
laisser gentiment. Laissez-la parler.
Merci. Est-ce qu'on peut enregistrer cette phrase? Laissez-la parler. Mais non, elle me semble importante.
Mais vas-y, parle maintenant.
Elle me semble importante cette phrase. C'est peut-être une version différente du texte, mais laquelle?
La version originale.
Ah.
Ouais. Qui a été censurée, c'est la version qui a été interdite, c'est celle qui aurait été présentée au roi et aussitôt interdite en 1664.
Oui, parce qu'à l'époque on pouvait plus rien dire.
Et voilà, absolument bien joué. C'est en effet une mise en scène signée par Ivo Van Hove. Qu'est-ce que vous aimez voir au théâtre?
Je suis assez bon public, c'est comme pour la musique, je peux aller aussi bien voir un seul en scène qu'aller à la Comédie Française.
J'ai hâte de voir Laurent Stocker,
qui va monter sur les planches dans un des rôles majeurs de Molière, puisque c'est les 400 ans.
C'est ça. Donc la Comédie Française ne va jouer que du Molière.
Exactement. Je suis assez bon public. Au Théâtre de l'Œuvre, c'est vrai que d'ailleurs, dans notre programmation.
C'est éclectique,
avec Benoît Lavigne, effectivement. Ben là, en ce moment, d'ailleurs, il y a un magnifique spectacle à 19h qui s'appelle Le Roi des Pâquerettes sur les débuts de l'aviation, l'épopée de Louis Blériot, la traversée de la Manche. On a eu Ibrahim Malouf, Alex Vizorek, Jean-Louis Aubert, Jerry Seinfeld même, qui est venu des États-Unis. Ouais.
Si vous aviez un rôle, un personnage de Molière que vous aimeriez incarner dans cette année des 400 ans?
Oh ben écoutez, tous, hein, c'est Misanthrope, Tartuffe, le
malin imaginaire. Parce qu'en sentiment, vous avez, sur Edmond Rostand, une
bourgeois gentilhomme,
que vous êtes attiré par Cyrano et que vous rêvez de jouer Cyrano.
Ce sont des rêves, oui, bien sûr, on veut toujours
Donc il peut y avoir un personnage.
Oui, bah tous, ce sont des relais extraordinaires.
Pourquoi Cyrano, c'est un rêve? C'est possible?
Bah, Cyrano, il y a ce côté pathétique et sublime de ce personnage. Moi je trouvais
pas le faire.
La langue de Rostand.
Pourquoi ne pas le faire?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, écoutez.
Moi, je connais le patron du Théâtre de l'Œuvre.
Oui, je vais essayer de
moi, je connais
rencontrer.
Molière.
Vous connaissez Molière et Edmond Rostand.
Ta grand-mère,
non, mais pourquoi
elle
pas, pourquoi pas. On verra. Ça fait partie de mes rêves. Oui, voilà. Bah, très bien. Très bien.
Autre question, et ça commence par une petite musique, s'il vous plaît.
Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit.
C'est Macias,
Enrico. Absolument, c'est Enrico Macias, la femme de mon ami. Pourquoi cette chanson?
Alors c'est lié à
Enrico, affole Internet en ce moment.
La femme de mon ami,
cette
affole
chanson
Internet.
Rend Internet complètement dingue.
C'est dans une série?
C'est pas dans une série.
C'est sur TikTok.
C'est un film.
C'est pas sur TikTok.
C'est drôle sur TikTok.
Une série?
C'est sur Instagram. Ah. Mais sur le compte de qui?
Rihanna.
Non.
Beyoncé.
Non, mais on est en train de parler en effet d'une américaine très
Maria
très connue.
Lady Gaga.
Non, mais un peu, c'est il y a quelques années, elle est plus complètement à son apogée. On a beaucoup parlé d'elle pour la libérer.
Britney Spears.
Absolument, c'est Britney Spears.
Ah oui, c'est vrai, elle a fait une vidéo là-dessus.
Ce qu'il a mise en fond de l'une de ses vidéos sur Instagram, ça a rendu les gens complètement dingos. On la voit en fait en train de nager dans sa piscine avec ce titre d'Enrico Macias derrière.
Donc, c'est génial.
Qu'est-ce qu'a fait Enrico? Il a partagé la publication de Britney Spears et il a fait quoi?
Il a téléphoné. Il a dans la piscine.
Britney!
Et il a proposé un duo.
Mais non!
Mais si, il a raison, mais qui ne tente rien n'a rien!
Ça,
absolument!
C'est génial!
Est-ce que vous vous sentirez d'interpeller quelqu'un sur Instagram?
Dans une piscine, non! Déjà.
D'interpeller un artiste sur Instagram, justement, entrer en contact directement plutôt que passer par un agent. Écoutez, pour rencontrer quelqu'un.
Je viens de recevoir un message, c'est un peu gênant.
Vous l'avez déjà fait ou pas? Les réseaux sociaux, ça peut servir à ça?
Oui, ça peut servir.
Ouais.
Exactement.
Vous le faites?
Peut-être pas Britney Spears, donc j'ai le sens du ridicule quand même.
Non, mais en France.
Mariah Carey, j'aimerais beaucoup vous rencontrer.
Non, mais il y a plein d'artistes que vous ne connaissez pas,
contemporains
en France.
Mais après, j'en connais quand même beaucoup. Ouais. C'est vrai.
Revenons sur le ridicule que vous avez employé. Je pense que si Enrico.
Non, je dis pas
Enrico. Moi, fini.
Oui.
Si Enrico avait directement contacté Britney Spears sans aucune raison, oui, là, il y aurait un moment de gêne.
Mais
elle met sa musique sur Instagram, il lui répond.
J'ai pas du tout. Je parlais pas du tout d'Enrico que je connais, que j'adore. Je parlais de moi si je me mettais à
contacter.
Vous m'avez posé
la
question. Vous m'avez demandé si je pourrais envoyer des messages sur Instagram à des stars américaines d'Instagram.
Alors, si on avait une,
non.
Si on avait une sur un bon prétexte.
Oui.
Une qui relaye un extrait de votre spectacle, un sketch ou une photo, peu importe. Et d'un coup, vous dites « Waouh, j'ai une telle ou un tel qui m'a retweeté ou tagué, je vais lui écrire. Vous, » vous aimeriez que ce soit qui? Une chanteuse, un chanteur, un acteur, une actrice?
Anthony Hopkins. Allez, voilà.
J'adore.
Je le suis sur Instagram en plus, génial. Il est extraordinaire.
Bah, voilà. Il fait quoi?
Bah, il fait des petites vidéos super sympas sur Instagram.
Des vidéos cuisine, des petites recettes.
Moi, c'est Jennifer Garner.
Il a
C'est qui?
Jennifer Garner.
Jennifer Garner. Ah ouais. On va faire la liste des courses alors, très bien.
Moi c'est Jean Castex, mais bon, voilà.
Une autre.
Non, j'en ai fait deux déjà. Il ne faut pas en trop, pas trop, oui. Pas trop.
Parfait.
Non, reste sur Maxime.
François-Xavier de Maison, vous êtes donc avec Benoît Lavigne et Kim Poignant à la tête du Théâtre de l'Œuvre à Paris. Je rappelle Le Roi des Pâquerettes, donc c'est à 19h.
C'est à 19h, c'est, voilà, c'est une.
C'est Bérangère pièce... Gallo et Sophie Nicolas.
Exactement, mise en scène Benoît Lavigne. Et c'est sur les débuts de l'aviation avec l'épopée de Louis Blériot. C'est très bien joué par des inconnus. C'est une magnifique pièce sur les gens qui croient en leurs rêves et qui, du coup, font avancer le monde.
Comment voilà. Vous l'avez choisie, cette pièce?
Déjà, elle était au Lucernaire, elle avait fait un gros succès. Mm-hmm. Et puis, oui, le fait que Benoît l'ait mise en scène, ça a aidé. Disons qu'on s'est dit que pour la première année, on allait oser fouler les planches de ce théâtre qu'on dirige depuis 6 ans. Voilà, il était temps.
L'excellent Grégory Baquet est en spectacle jusqu'au 6 avril avec le cas Charivari de Nicolas Deutsch et Lola Eliakim. C'est plutôt un spectacle pour enfants pendant les vacances?
Oui, exactement. On a une programmation qui voilà, pour le jeune public aussi. Et c'est
mais donc à quoi, 16h ou à
quel moment? Oui, alors c'est dimanche, c'est le week-end et le mercredi. Oui,
ouais,
oui,
super,
oui, c'est
ça. Super. Vous êtes dans Les Hommes au bord de la crise de nerfs, le nouveau film d'Audrey Dana. Que pouvez-vous nous dire de ce film?
Eh bien, écoutez, c'est un film qu'on a tourné il y a 2 ans dans le Vercors avec Ramzy, Thierry Lhermitte, Audrey Dana, Laurent Stocker, Marina Hans, Michael Gregorio, et qui sort en mai. D'ici là, fin mars, il y a Le Temps des Secrets, le film de Christophe Baratier.
23 mars, Christophe Baratier, avec Guillaume de Tonquédec, Mélanie Douté, Anne Charrier. D'ailleurs, vous, avec vos trois partenaires, donc tous les quatre, vous avez la gentillesse d'accepter l'invitation de Leïla et la mienne pour venir dans Taratata en parler.
Ben on est très honorés d'accéder enfin à ce panthéon.
On prépare tout, on prépare les micros, les retours, tout, la serviette, une fois que vous aurez chanté Elvis, tout est prêt, il n'y a aucun problème. Là, c'est du Pagnol, hein, Le Temps des Secrets.
Oui, c'est la suite de La Gloire de mon père et du Château de ma mère, et c'est magnifique. Je joue l'oncle Jules. C'est sublime. On est dans la garrigue, dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et je crois que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde.
Ouais. Et Stéphane de Groot, on en a parlé parce qu'il sera notre invité lundi, et on a eu la chance de l'applaudir hier soir à Édouard VII. Vous avez partagé avec lui Champagne de Nicolas Vanier,
qui sortira avec Eric Elmos Nino, Elsa Zilberstein, Stéphie Selma.
Testu, aussi,
exactement, ouais. Un film de Nicolas Vanier, une histoire de potes qui se situe en Champagne, et voilà. Et je démarre lundi un tournage avec Isabelle Huppert, la syndicaliste.
C'est
un film de Jean-Paul Salomé.
Voilà. Et tout ça en démarrant aussi le spectacle, c'est-à-dire que vous cumulez, entre guillemets, dans la journée des tournages cinéma pour aller le soir à 21h au théâtre, vous mettre en...
Exactement.
En scène et aussi un peu en péril.
J'ai toujours fait ça depuis 20 ans. J'ai toujours tourné parallèlement à mes spectacles. C'est vrai qu'il y a un côté un peu boulimique.
Est-ce qu'il y a un côté, il y a toujours un petit pincement quand on rentre sur scène en se demandant si tout va bien se passer,
toujours.
En se demandant si le public sera bon.
Toujours.
Est-ce que ça existe, un
toujours,
bon
toujours.
Public
là,
un
je
public.
Sors de 30 dates de rodage dans les petites salles, dans les petits cabarets, voilà, et il y a toujours cette excitation et puis ce trac de est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce que ça va bien se passer,
c'est, évidemment
c'est existentiel, hein, je mais crois vous qu'on est d'accord avec ça,
non mais
hein,
c'est bien qu'il n'ait pas la réponse parce que sinon
il est pas sûr au moins, lui il arrive tellement sûr de lui sur scène,
pas sûr du tout. Moi, je suis liquéfié dans la vie en général donc sur scène.
Non, c'est formidable, encore une fois, pour avoir eu la chance de vous applaudir et de vous voir et de rire. On ne peut que encourager celles et ceux qui auront la possibilité d'aller au Théâtre de l'Œuvre à partir du 11 février jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 2 avril pour être précis. Divin, c'est le cas de François-Xavier de Maison. Il l'est. Qu'avez-vous à nous présenter comme excuse, Daniel Morin?
Je suis déjà désolé pour notre invité, François-Xavier de Maison, qui a découvert ce matin que ce que Nagui préférait dans ce théâtre, c'était pas la programmation des pièces et des spectacles, c'était
non,
la buvette. Ah ben, arrêtez.
C'est un bar,
il est cash, l'enfant déborde du Nil, il y va direct, aux fondamentaux, il ne ment pas. Désolé pour Nagui qui a découvert ce matin qu'au Théâtre de l'Œuvre, à l'étage, au-dessus de la buvette, il y avait une salle de spectacle. Hein. Désolé
ça
pour...
Ça sert à quoi ce truc hein, ou...
Désolé pour l'os qui a été attaqué, rongé, oui, croqué par François-Xavier de Maison pour en faire son spectacle. Alors je l'ai récupéré juste avant que Leïla le finisse, je le donnerai demain à Thierry Marx, il en fera sûrement une soupe. Et désolé enfin pour la mémoire de Nagui qui l'a apparemment plutôt courte.
Pourquoi
la mémoire. Si Nagui, tu as un talent d'imitation,
l'imitation. En tout cas, tu maîtrises l'imitation de tes meilleurs collègues comme Patrick Sébastien.
Je vais te faire quasiment avec ma bite.
Le mec a tous les talents.
On va rester là-dessus.
Nagui, bravo.
Bonne journée.
En week-end,
bonne fin de journée.
Non, mais le pire, c'est qu'ils ne s'en souviennent pas.
Non, mais c'est honteux.
C'est
honteux, mais c'est pas moi.
C'est des casseroles. C'est des dossiers.
C'est un truc à la négociation. Ça se fait pas normalement.
C'est un trucage. Merci. Merci François-Xavier de Maison d'être venu.
C'était un vrai plaisir comme toujours. Merci à vous.
Au moins avec vous, une part d'humanité autour de cette table. Passez une très bonne journée. Les carnets de campagne, c'est maintenant. Philippe Bertrand, bonjour.
Oui, salut les amis.
Salut Philippe.
Vous voulez savoir où je vous emmène?
Déjà, je veux savoir si le vin aussi comptait autant pour vous que pour François-Xavier de Maison.
Bien sûr. Bonjour à François-Xavier.
Bonjour Philippe, qui je le rappelle à chaque fois qu'on se parle.
Oui, je fus ton premier bourreau radiophonique.
Ça a été ma première interview à la radio.
C'est génial.
Sur France Inter, et je n'oublierai jamais Philippe Bertrand.
Non, on peut pas l'oublier.
C'est chic. Ça y est.
C'est classe.
Je suis fondu.
Toujours cette belle voix de Stanteur.
Ouais. Oh, et donc on va où alors?
Au pays des utopies. Vous allez me dire c'est où?
Au pays des rêves.
Il suffit de le vouloir et c'est là.
Oh,
c'est joli.
C'est joli. À demain.
Le poète, vous le retrouvez dans quelques instants et demain ça sera Thierry Marx qui sera notre invité. Bonne continuation avec Philippe Bertrand.